Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina, vous êtes bien dans l'émission 3 en 1 sur Canal B sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes mercredi 13 mai ou jeudi 14 si vous nous écoutez en rediff. Et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Au sommaire de cette édition, on va vous parler agriculture. Lundi déjà, souvenez-vous, on vous parlait d'un film en cours de réalisation sur la première députée ouvrière agricole de France. Et bien aujourd'hui, on vous parle à nouveau d'un film, mais qui a d'abord été un livre. Et en l'occurrence, une grande enquête, puisque Julie s'est entretenue avec le journaliste Nicolas Legendre, auteur de Silence dans les champs et co-réalisateur du film Violence dans les champs. Vous retrouverez cette interview en deuxième partie d'émission à partir de midi 20. Et puis, il était une fois, le rapport d'information sur l'audiovisuel public, publié mardi 5 mai. En fin d'émission, Manon, tu viendras nous raconter une histoire à ce sujet.
Exactement, vous verrez, je me suis amusée à inventer un monde sans audiovisuel public, comme en rêve Charles Alloncle.
On te retrouve aux alentours de midi 40, et en attendant, Manon, tu restes avec nous en plateau.
Vous n'en avez sûrement pas beaucoup entendu parler, mais les députés ont commencé à examiner un projet de loi d'urgence agricole. Le texte a été adopté le 6 mai en commission et il doit être débattu à partir du 19 mai à l'Assemblée nationale.
Et quel est l'objectif de ce projet de loi exactement ?
Eh bien, pour le gouvernement, ce projet de loi permettrait de répondre rapidement à la crise agricole, de soutenir agriculteurs et agricultrices, et pour cela, plusieurs mesures sur l'eau, l'élevage et sur quelques règles environnementales. Pour ce qui est de l'eau, d'abord, le texte veut faciliter le stockage de l'eau pour l'agriculture, avec moins de contraintes administratives, en supprimant l'obligation de réunion publique pour l'autorisation environnementale de projets de stockage d'eau.
Oula, ça m'a pas l'air d'être une bonne nouvelle pour la démocratie, ça.
Pour ce qui est de l'élevage ensuite, le gouvernement souhaite simplifier les règles d'autorisation pour les bâtiments d'élevage, ce qui, concrètement, pourrait permettre d'agrandir plus facilement les exploitations et donc de favoriser l'élevage intensif.
Un projet de loi qui est donc censé répondre à l'urgence de la crise agricole, mais qui fait des propositions pour le moins controversées.
Oui, et d'ailleurs, Greenpeace parle même de ce projet de loi comme d'un recul majeur, notamment pour la préservation de l'eau.
Et l'eau comme bien commun est bien menacée en ce moment, puisque le Sage-Vilaine est toujours suspendu. On va continuer à parler agriculture juste après un petit morceau de musique qui se demande « Who took the bump ?»
Every day now, I can see your face.
See You Later, ça date de 99, c'était le groupe Le Tigre avec le morceau Decepticon, Deceptason, je ne sais pas comment on le dit. Tout de suite, on va parler agriculture et enquête journalistique. Julie a rencontré Nicolas Legendre, co-réalisateur du film documentaire Violence dans les champs, c'est l'interview du jour.
Le 28 avril dernier, 3 en 1 s'est rendu à l'avant-première de Violence dans les champs. Co-réalisé par la cinéaste Magali Serre et le journaliste Nicolas Legendre, le documentaire réunit des témoignages d'agriculteurs, d'éleveurs et du décideur du monde agricole de la France entière. Tous dénoncent un système économique qui perdure depuis des années grâce à la violence. Ce documentaire est une adaptation et une expansion d'une enquête menée durant plusieurs années en Bretagne par Nicolas Legendre. Journaliste et fils de paysan, il a rapporté des témoignages et expériences agricoles dans le livre « Silence dans les champs », récompensé du prix Albert Londres en 2023. Aujourd'hui dans 3 en 1, on aborde ce processus d'adaptation d'une enquête journalistique écrite au grand écran. Nicolas Legendre, auteur de l'enquête et co-réalisateur de « Violence dans les champs » est avec nous pour répondre à mes questions. Nicolas Legendre, bonjour.
Bonjour.
Le livre « Silence dans les champs », il a été publié en 2023. En 2026, l'enquête, elle devient documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format-là ?
J'ai choisi d'adapter Silence dans les champs parce que pour toucher plus large, en fait. C'est-à-dire que le livre, au moment de sa sortie, et dans même les années qui ont suivi, a fait un peu de bruit, a fait parler de lui. Mais malgré tout, je considérais qu'il y avait encore des choses à rendre public de façon plus large. Or, le documentaire permet justement une visibilité forte. Je voulais aussi sortir de la Bretagne, ou plutôt élargir le propos au-delà de la Bretagne.
Et le documentaire, d'ailleurs, il a été produit par la société Vivement Lundi. Il a aussi été soutenu par le CNC et aussi France Télévisions. Est-ce que c'est des acteurs qui sont venus vous voir ou c'est vous qui êtes allé les chercher ? Comment ça s'est passé ?
Non, c'est Vivement Lundi, avec qui j'avais déjà travaillé, qui m'a sollicité peu de temps après la sortie du livre. Donc l'idée, en fait, vient de Vivement Lundi, de Jean-François Lecor et Aurélie Angebaud, qui sont producteurs, productrices chez Vivement Lundi, société rennaise. Et eux ont tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose à faire. La difficulté, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'est dit « mais oui, il y a quelque chose à faire, peut-être », a été de choisir un angle. Parce qu'en fait, un livre, c'est sur 350 pages, on peut parler de beaucoup de choses, on peut inclure beaucoup de notes en bas de page, faire référence à des études scientifiques, faire parler énormément de témoins. Il y a une cinquantaine, je crois, de personnes qui parlent dans le livre. C'est absolument pas possible dans un documentaire, quand bien même c'est un format long comme celui-ci, 1h10. Il a fallu faire des choix, et le gros du travail a été là, en fait.
Et justement, y a un choix qui m'a un peu interpellé, parce qu'au moment de l'adaptation, le nom donc, qui était « Silence dans les champs » du format écrit passe à « Violence dans les champs » pour le format audiovisuel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer le titre de cette manière ?
La question de la violence était une sous-partie du livre de « Silence dans les champs ». C'était pour moi un aspect important au moment de l'enquête qui a donné lieu au livre, mais je la maîtrisais pas totalement au moment où j'ai dû écrire ou où j'ai dû publier. Et c'est après coup, après la sortie du livre, j'ai rencontré d'autres personnes. Certaines personnes m'ont écrit, et j'ai rencontré notamment des chercheurs en sciences humaines qui ont travaillé sur certains aspects, certaines questions liées à l'agriculture. Et c'est là que petit à petit, j'ai recollé les morceaux, en fait, et où je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte par la suite avec Magali, qui est donc co-réalisatrice du documentaire, que la violence était une clé majeure qui permettait à la fois de comprendre, mais aussi de décrire et d'expliquer ce qu'est le système productiviste au sein du complexe agro-industriel. On a identifié la violence comme étant une sorte de elle permet de faire la quadrature du cercle et de comprendre pourquoi ce système est dysfonctionnel. Parce qu'il est violent, en fait, à la base, c'est cette idée de la loi du plus fort qui innerve vraiment tout ce système. et parce qu'en fait, il engendre des violences d'abord contre les paysans eux-mêmes, aussi entre paysans, contre l'État, par l'État, et bien entendu, des violences contre le vivant. Quoi. C'est la question des pesticides, la question de la condition animale également. Et voilà. Donc, ça nous a semblé vraiment la violence comme. Ça nous a semblé être une clé qui permettait d'expliquer l'ensemble du système. Et notre objectif, c'était d'être pédagogique, en fait.
Et vous parliez justement d'après la publication de votre livre, que des personnes vous ont contacté. J'imagine que la récolte de témoignages entre une enquête écrite et une enquête audiovisuelle, un documentaire, n'a pas les mêmes enjeux. Est-ce que vous avez fait face à des obstacles durant la récolte de ces témoignages? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire des exemples?
Alors, il a fallu déjà choisir. Donc ça a demandé un gros travail d'enquête à nouveau, en fait, pour contacter des gens avec qui parlent déjà dans Silence dans les champs, mais aussi des gens qui m'avaient écrit après l'apparition du livre. L'autre aspect, ça a été de convaincre à ceux qui m'ont apporté leur témoignage et dont on a considéré qu'il serait intéressant d'avoir leur témoignage dans le film, de les convaincre d'apparaître face caméra, en fait. On avait prévu des possibles dispositifs d'anonymisation. On n'a pas eu à y avoir recours, finalement. Mais il a fallu quand même convaincre. Et donc, effectivement, certaines personnes qui avaient des témoignages extrêmement forts ont finalement refusé, en fait, et bon, je peux les comprendre, hein, par crainte, en fait, tout simplement, par peur de subir des représailles, par peur d'avoir des ennuis d'un point de vue économique pour leur ferme. C'est-à-dire, il y a mille façons, en fait, de torpiller un paysan, hein, des entraves économiques pour l'accès au crédit, pour l'accès au foncier. Et donc, tout ça, beaucoup de paysans en ont conscience, en fait. Ils ont intériorisé la possibilité que la main invisible leur tombe dessus. C'est ce qui explique que certaines ont refusé de témoigner face caméra. I found a girl but I seem far from breathless. She makes a smile and I'm hardly ever lonely. But each morning more it would seem I detest her. She's sweet so dark but had now come to own me. Some days I wake up to find she made breakfast. Changed from the camels and the grace of Peroni. Most days I wake up and feel so depressed, cause I don't have a world like she does through peonies. I found a girl but it seems kinda stressful. I've known for joy for a walk in the park or a nice meal and ice cream. My life's nicely dressful. They seem to chase from my chest over darkness. This taste for life had me searching for quests, but she's got me taped to my bed like I'm dying. It hushed out my fears, making tunes of my desk, but now I hear them scream as I lie by her fires, man. When we hear fireworks, I look quick for proof. From stuck with the force of the planes are arriving. Scrape out the land with a last final boom. She looks at the light, show her hand, lock the mind. Try landing nice when you know you're the test. Full of wheeze out attempts like I'm losing a kilo. It's not nice to know for as much as it's blessed. Still the blue seem to stitch onto me like I'm Lilo. I found a girl but I seem far from breathless. She makes a smile and I'm hardly ever lonely. But each morning more it would seem I detest her. She sweeps the dark that had now come to own me. Some days I wake up to find she made breakfast. Changed from the camels and the grace of Peroni. Those days I wake up and feel so depressed, cause I don't have a world like she does through peonies. We'll be right back.
about down meowed at his muse. Held out in fear of a fate he'd been handed. He whipped out a six string, a six pack, a quill pad, and penned a tune to declare love had landed. And asked in the song if she's still tying the cat to a star, knowing how now he'd not much to give. Slowly the plant grew, and soon see the last thing he wanted was being cursed and turned to a squid. So he told her in tune that the moon turned his blues to a lilac within, so it soaked out within. Cold in his wrecked chest kept him alive, so he wept for the hue he had kept as a friend. Tears made it so that the plant grew and bloomed with a violence that chased out the cold he had tinned. Soon he could no longer fight or deny that he felt in his heart more than soreness and wings. Thus lonely cat felt oh so happy, his plant grew fat and it soon started blossoming leaves. Slowly now here limbs whip crack and grow twigs.
Des pivoines pour le petit déjeuner ou peonies for breakfast en version originale. C'était le rap jazzy de Los de Cat qui nous vient du UK. Un petit moment de douceur pour ce milieu de journée. Vous écoutez toujours 3 en 1 sur Canal B tout de suite. On retourne en plateau avec Julie pour la deuxième partie de l'interview de Nicolas Legendre, journaliste et co-réalisateur de Violence dans les champs, tiré de son enquête Silence dans les champs.
Donc le film est passé en avant-première à l'Arvor il y a environ 3 semaines, mais pourtant il n'est pas programmé pour être diffusé dans les salles de cinéma sur le long terme. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de le laisser en libre accès sur le service public et notamment sur France Télévisions ?
Donc France Télévisions a accompagné le film quasiment dès le départ, en fait, depuis le stade de du développement et surtout de la production du film, donc le moment où on commence à tourner. Donc il était normal que France Télévisions puisse le diffuser sur leur support. Moi, je suis très heureux que ce soit la télévision publique qui nous ait soutenus pour ce film. Qui plus est, en ce moment, à l'heure où l'audiovisuel public est attaqué de diverses parts, ça permet aussi de toucher large. En fait, un film de cinéma, ça peut très bien fonctionner, mais c'est un gros pari, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire 10 000 entrées, 20 000 entrées, et puis ça s'arrête là. Là, avec une diffusion sur France 5, sur l'audiovisuel public, on est assuré d'une audience plus large, si tout se passe bien. En l'occurrence, le film a fait 620 000 et quelques vues lors de sa diffusion le premier soir. Donc, c'est quand même sécurisant d'une certaine façon.
Et vous parlez justement d'une audience qui est plus large. Vous, quand vous avez co-réalisé le documentaire, quel était le public cible ?
Le documentaire avait pour but d'être pédagogique, c'est-à-dire que avec Magali, qui est la co-réalisatrice, on constate en fait que beaucoup de gens n'y comprennent plus rien au bazar agricole actuel, avec les manifestations qu'on voit quasiment tous les ans, avec des paysans qui expriment un mal-être profond, qui disent qu'ils gagnent pas leur vie malgré qu'ils travaillent beaucoup, et tout ça malgré un syndicat agricole qui est tout puissant, c'est la FNSEA, et donc qui devrait logiquement pouvoir mettre des choses en place puisqu'il est tout puissant depuis 60 ans maintenant. Ce fait que beaucoup de gens sont dans le flou, et nous on a voulu faire œuvre de pédagogie et en fait expliquer pourquoi on en est là actuellement, quoi, décrypter le fonctionnement de ce système. Donc la cible est hyper large, en fait, c'est le grand public. Mais dans le même temps, on voulait pas faire un documentaire qui soit on voulait pas perdre les paysans, quoi. C'est-à-dire que le risque dans ce cas de pédagogie, vulgarisation sur la question agricole, c'est que beaucoup de gens dans le monde agricole ne s'y retrouvent plus parce que ça manque de précision, parce que ils ont l'impression qu'on parle mal de leur métier ou pas de façon précise en tout cas. Donc on a évolué sur un fil en fait, en essayant de parler à la fois au grand public et aux paysans.
Et lors de la représentation à l'Arvor le 28 avril dernier, donc on a eu la chance d'avoir l'intervention de certaines personnes présentes dans le documentaire. Je pense à Gilles Lagneau qui est apiculteur et ancien président du syndicat des apiculteurs du Morbihan. Et il s'exprimait en déclarant « La politique, ça sert à rien, le changement viendra des consommateurs. » Est-ce que votre documentaire, il positionne un peu comme une sorte de journalisme de solution aussi.
Journalisme d'impact, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité. Moi, je pense pas que la solution puisse venir uniquement du consommateur dans le cas des impasses du système productiviste et du complexe agro-industriel. Je pense que il faut une conjonction de choses, de dynamiques et de dynamiques qui engendrent des rapports de force. Concrètement, ça veut dire que il me semble que si on veut engager des changements qui impactent réellement la situation, ça nécessite une approche systémique. Étant donné que l'agriculture, c'est aussi l'alimentation, c'est aussi la santé, c'est aussi le vivant, c'est aussi la question accessoirement de la condition animale, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question de distribution et de grande distribution, c'est une question de commerce international, c'est une question européenne. C'est une question sanitaire. Enfin, on est vraiment sur un sujet qui est systémique. Et le complexe agro-industriel qui est né durant l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, est vraiment éminemment systémique. Il est intégré. Il me semble que si on veut engager des transformations d'ampleur de ce système pour corriger précisément ces impasses, une seule force en présence ne suffira pas. Je pense que on a besoin du politique et que le politique a besoin des citoyens, des citoyennes, pour avoir un appui et une légitimité pour engager des transformations, pour mettre en musique en tout cas des transformations. Alors ça peut être poussé très très fort par des mouvements citoyens, quelle que soit leur forme. Mais je pense vraiment que c'est multifactoriel et que cette dynamique elle viendra pas, ou elle théoriquement en tout cas peut pas venir d'un seul côté. Ça, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément détaillé dans le film, tout simplement parce qu'en 1h10 on peut pas tout expliquer, quoi.
Merci beaucoup Nicolas Legendre d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes auteur de l'enquête Silence dans les champs et co-réalisateur du documentaire Violence dans les champs.
Merci à vous.
Et merci Julie pour cette interview menée à distance. On passe des écrans à l'hémicycle maintenant, et ce qui fait grand bruit depuis quelques jours, c'est le rapport d'information sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Il a été publié mardi 5 mai. Après 6 mois de travaux, le député UDR Charles Alloncle, proche du Rassemblement National et rapporteur de la commission d'enquête, tente de démontrer en 551 pages que l'audiovisuel public est en crise. On peut voir ce rapport et ce thème imposé dans le débat public dernièrement comme une étape importante qui aiderait l'extrême droite dans sa volonté de privatiser l'audiovisuel public. Mais on va les devancer. Manon, tu es en 2030, tu nous parles depuis une France sans audiovisuel public.
Après la disparition de France O, il y a 10 ans maintenant, France Télévisions, Radio France, France Média Monde et TV5 Monde ont aussi fermé l'antenne, les uns après les autres. L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, tente de survivre avec la participation des Françaises et Français, mais ce n'est plus un institut, c'est une association. Ce sont les citoyennes et citoyens qui décident d'envoyer des archives. Ah oui, et Arte fait aussi partie des tristes victimes. C'est devenu une chaîne exclusivement allemande. Je suis désormais obligée de mettre les sous-titres sous chaque documentaire. Je peux même plus les écouter comme des podcasts en préparant à manger. J'ai même commencé Duolingo en allemand. Bref, le service public audiovisuel est mort.
Et comment on fait alors en 2030 sans nos magazines d'information et d'investigation ?
Eh bien c'est dur, très dur. Les formats longs, les documentaires d'investigation, ils s'effacent peu à peu de notre univers. Le dernier épisode de Cache Investigation dont je me souvienne est celui sur l'enquête sur le périscolaire et les établissements privés. Il est sorti en janvier 2026 si je m'en souviens bien.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes à la télé alors ?
Heureusement pour moi, ou pas, je suis fan de sport, donc je trouve toujours de quoi m'occuper. Après tout, quel plaisir de donner mon argent à Bolloré pour regarder la Coupe d'Europe de football. Parce que oui, maintenant, sans audiovisuel public, l'accès au championnat est restreint, même plus de matchs de Coupe de France de football entre deux clubs amateurs en accès gratuit à la télévision.
Et pour les infos, me dis pas que c'est aussi soumis à abonnement, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Il reste quoi, le journal de TF1 et celui de CNews ? Tu regardes lequel ?
Oula, aucun des deux. D'ailleurs, au début, je pensais que ça allait me manquer, le journal de 20h sur France 2. Bon, déjà, j'avoue, j'avais déjà un peu décroché après le départ d'Anne-Sophie Lapix, mais ce qui me manque le plus, c'est vraiment les documentaires, les longs formats. Ils ont quasiment disparu.
Et la radio, on en est où ?
Radio Nova résiste, comme Canal B, mais ils se font compresser par des procédures bâillons à n'en plus finir, et j'écoute plus rien d'autre, parce que tu sais quoi ? Maintenant, certaines stations proposent des talk shows entièrement générés par l'IA. Oui, oui, des scripts et des conducteurs écrits, puis lus par l'IA.
Et finalement, avec le recul que tu as là depuis 2030, t'en penses quoi de tout ça ?
J'en pense que même s'il y avait des choses à redire sur le système de l'audiovisuel public en France, on était mieux avec. La privatisation des médias est la pire chose qui pouvait arriver. On criait au manque de neutralité avant, mais aujourd'hui on pleure le manque d'informations poussées, d'investigations. Oui, l'audiovisuel public n'était peut-être pas 100% neutre, mais de toute façon, les journalistes n'ont jamais été et ne seront jamais neutres.
Et quand on pense à notre invité du jour, Nicolas Legendre, co-réalisateur de Violence dans les champs, on peut se dire que sans audiovisuel public, son film n'aurait jamais été diffusé sur France Télé, évidemment, et peut-être même qu'il n'aurait jamais été produit. Bon allez, on revient en 2026, pour le meilleur et pour le pire, pour l'instant, l'audiovisuel public existe, profitons-en. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Legendre justement d'avoir répondu à nos questions et merci surtout à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission, Julie et Manon. Tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr. On vous retrouve lundi prochain, midi 15, sur le 94 FM. On aura le plaisir de recevoir dans 3 en 1 la compagnie Les Trois Ours. On a hâte. En attendant, bon après-midi ou bonne matinée. Et puis bon week-end si vous profitez des jours fériés. À lundi prochain.